C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est même plus qu'un plaisir, c'est un privilège parce que Dieu nous a appelés à être ses porte-paroles. Il nous a appelés à ce qu'on soit son représentant sur la terre. Dieu veut parler à travers de la bouche des prédicateurs, mais il veut parler aussi à travers la bouche de ses enfants. Chaque fois qu'on ouvre la bouche et qu'on parle de Jésus, on est des représentants de Dieu. Ça fait plaisir au Seigneur. Quand on parle de lui, quand on l'élève, quand on lui dit merci, quand on partage notre foi, Dieu y est glorifié dans ce monde où ce que le monde cherche à l'oublier. Le monde d'aujourd'hui cherche à tasser Dieu et à l'oublier. S'il serait capable, il enlèvera même le mot dans le dictionnaire. Dieu, il enlèvera ça parce que dans leur vie, ils veulent pas entendre parler de Dieu. Mais, parmi les chrétiens, c'est pas pareil. Dieu, c'est la source de ma joie. Amen. Êtes-vous dans la joie quand vous allez, quand comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, on s'en va là pour louer le Seigneur, pour le glorifier, pour le bénir. Ça devrait nous pousser dans la joie, nous exciter. On s'en va chanter des chants au Seigneur. Amen. C'est de même qu'on porte du fruit pour Dieu, quand on le vit. Quand on est rendu, si on est rendu dans une période qu'on est sec, comme qu'on disait tantôt au début de la réunion, un désert, ça arrive les déserts. Sauf faut se prendre des provisions d'eau quand tu sais que tu t'en vas dans le désert. Ou si tu l'es dans le désert puis tu vois un dépanneur, arrête de prendre de l'eau. Tu n'as besoin d'eau pour traverser le désert. Essaye pas de traverser un désert sans eau. C'est pour ça qu'on est là. On s'en vient s'abreuver au fleuve de Dieu. Les eaux vives. Amen. Gloire à Dieu. On est en train de continuer l'étude sur les différentes positions qu'on a en Jésus, toutes les nouveaux statuts à cause de l'œuvre de Jésus. On a vu une coupe, mais il nous en reste quelques-uns à voir. Aujourd'hui, nous sommes, grâce au Christ, devenus des arbres fruitiers. Puis, si on fait le lien avec ce qu'on a vu au début de la réunion, qu'est-ce qu'on a dit, mais un arbre a besoin d'eau. On va le voir tantôt. Un arbre a besoin d'eau. Sinon, il va avoir juste des feuilles, puis même sinon, il va sécher, les feuilles vont tomber. Ça poussera pas s'il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas gros d'arbres, à moins qu'il y ait un étang, là. Un petit oasis où ce qu'il y a de l'eau, là, ça va bénir la végétation, elle va pousser. Mais nous, en tant que sauvés, nous sommes devenus devant Dieu des arbres fruitiers. Puis on va comprendre un peu avec les versets qu'on va parler. Dans plusieurs enseignements de la Bible, le Seigneur a fait allusion à la semence puis du fruit. Parce que Jésus servait des exemples courants de ce qu'il y a autour, puis la majorité du monde dans ce temps-là, il était cultivateur ou il élevait des moutons, ces affaires-là. C'était pas comme le monde ultra-moderne qu'on vit aujourd'hui avec toute la technologie. Fait qu'il parlait avec les exemples qui sont courants que le monde puisse comprendre. Puis il y a beaucoup de paraboles qui ont rapport à l'agriculture. La semence, puis ça pousse, devient un arbre, les oiseaux, puis la nature, la végétation, etc. La création entière, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que la création entière, la planète, là, tout ce que Dieu a créé, avait un but, c'est que le centre de cet univers-là, sans compter le monde invisible, là, le centre de cet univers-là, c'est notre planète. La Bible dit qu'elle a été créée, la planète, avant les étoiles. C'est sûr que scientifiquement, il y en a qui vont s'ostiner, mais ça nous le dit dans la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais les cieux étaient vides. Il a créé le soleil, les étoiles, après. Le centre de cet univers-là, c'est la planète Terre. Puis Dieu voulait s'en servir. Dieu voulait s'en servir de cette planète-là pour s'en faire un champ. Puis la création entière est comparée à un champ dont le grand cultivateur s'attend à une récolte. Dieu, s'il aurait voulu, il aurait fait comme les anges. Tout le monde aurait été créé d'une shot. Là, sont toutes là. Non, il a voulu faire un peu différent lors de sa création. Il a fait la création comme un champ, puis là, il a mis les deux premiers humains. Puis là, il voulait qu'on marche sans le voir, qu'on marche, qu'on se développe. Comme ça, comme c'est arrivé, qu'on se développe, qu'on se multiplie, qu'on remplisse la terre. Puis Dieu, dans tous les êtres humains qui a passé sur la terre, c'est comme un champ qu'il a cultivé dans ce champ-là, puis il s'attend à une récolte. La question qu'on peut se poser, quelle sorte de fruit es-tu? Faut se poser cette question-là. Je suis un arbre fruitier qui porte du bon fruit pour Dieu ou je suis de la mauvaise arbre? Des épines, des craquias. Puis c'est comique, mais c'est pas comique. C'est comique, mais il faut se poser la question parce qu'on peut être se pensant dans les porteurs de fruits puis qu'on n'a pas de fruits en fin de compte. Puis il faut se la poser la question parce que Jésus l'a enseigné. Si Jésus l'a enseigné, c'est parce qu'il voulait qu'on prenne conscience de ces pensées-là. Dans Matthieu 13, et versets 24 à 30, Jésus parle justement de la parabole. Il propose une parabole, puis leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. » C'est ça que je vous disais tantôt. C'est comme si la planète, c'est le champ de Dieu, puis Dieu a semé de la bonne semence. Adam et Ève, la Bible, elle dit, ils ont été semés très bon. Tout était très bon quand Dieu considérait tout ce qui était créé. C'était pas corrompu, c'était créé parfait, comme le diable. Il était créé parfait, il s'est corrompu par la suite. C'est qu'il a permis que les humains puis les anges aient leur liberté de choisir. Puis c'est ça qui fait qu'à long terme, on pourra se détériorer, comme on dirait. Il dit, le royaume des cieux semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, puis il se mit de l'ivraie parmi le blé, puis il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, puis donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Là, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Puis les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la dans gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Comme je vous disais au début, la planète, c'est un champ. Dieu a semé de la bonne semence, puis à la fin, il y a une récolte. Puis Dieu connaît chacune des créatures qui est là. Autant que les anges l'ont remarqué, ses serviteurs, je veux dire, au maître, l'ont remarqué. Comment ça se fait si on a semé du blé qui pousse la mauvaise arbre? Il faut être conscient que ce qui pousse aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais arbres. Puis même, je dirais plus que ça, tout le monde sont devenus mauvais arbres. En venant au monde, à part d'Adam et Ève qui n'étaient pas de la mauvaise arbre au début, mais ils ont tombé mauvais arbres après avoir écouté le diable. Puis après ça, l'ensemble de l'humanité pousse, puis il y a du mauvais, puis Dieu avait craint du bon. Pourtant, Dieu veut une récolte, puis c'est important parce qu'il faut réaliser que la planète qu'on vit présentement, c'est un champ. La carotte qui pousse dans un champ présentement, elle ne passera pas toute sa vie dans la carotte, dans le champ, je veux dire. La carotte ne passera pas toute sa vie dans le champ. Un jour, elle va être cueillie à carotte, puis elle va finir d'un chaudron, pour finir d'une assiette, pour finir dans l'estomac à quelqu'un. Sa vie n'était pas juste dans le champ. Ben nous, c'est la même affaire. On était semés sur la terre, puis comme si Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait une continuité à tout le monde après la mort. La vie terrestre n'est pas l'ensemble de notre vie, n'est qu'un passage. Elle n'est que pour un temps. On était semés, Mais après ça, on a une utilité. Il veut servir de nous pour autre chose. Mais il prend juste le bon, le blé, pour faire du bon pain, du pain brun. Le reste, la mauvaise herbe, tu peux pas t'en servir pour faire de quoi à manger, à ramasser, puis jeter au feu. Puis Dieu, il compare cela avec l'ensemble des humains qu'il y a sur cette terre. On n'est pas né blé. Faut le comprendre. Parce que toute la gloire du fait qu'on est devenu du blé pour le Seigneur, qu'on est devenu un bon fruit, toute la gloire revient à Jésus. Parce qu'on est à tout de l'ivraie. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, ça nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Dans ce passage-là, ça nous dit qu'on a été régénérés. Le mot grec, ça veut dire, on a été né de nouveau, on a été transformé. C'est ça qui est le sens du mot. On a été transformé, né de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie. Puis on a été modifié dans nos gènes, dans le français, régénéré, c'est modifié dans notre génétique. Mais c'est pas nous qui l'a fait. C'est l'œuvre de Jésus qui a permis qu'on puisse être régénéré. Puis ça prenait que lui qui pouvait le faire, comme Jésus l'a dit aux gens, c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais à Dieu, tout est possible. Puis il fallait qu'on soit changé de nature. On est venu au monde ivraie. Il fallait qu'il nous transforme en blé. Il y a un changement génétique pour qu'on soit agréable à manger par le goût de Dieu, pour qu'il nous aime, puis qu'il aime ce qu'on fait, puis qu'il veut nous considérer comme étant un bon fruit pour lui, parce qu'on est un arbre fruitier, on va le voir un peu dans la suite. Fallait qu'on soit changé dans notre génétique. Puis c'est pour ça qu'il est important que les gens qui sont autour doivent le savoir qu'il faut qu'ils soient régénérés, sinon ils ne rentreront pas dans la vie éternelle. C'est ça le message. Dieu nous offre d'être transformés, d'être régénérés. C'est de naître de nouveau. C'est de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est de devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Il faut qu'il nous change parce que l'ivraie est destinée au feu. Il nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence de corruption. C'est une semence vivante, permanente, puissante. C'est la parole de Dieu qui a pénétré notre cœur. Puis là, la foi est enclenchée. Puis là, le processus a été permis. Mais il faut recevoir cette semence-là. Il faut être ouvert à la recevoir. Il faut qu'elle soit déposée dans notre cœur. Puis pour cela, il faut la laisser rentrer. Parce qu'on n'est pas venu au monde avec ça. Puis cette semence-là, c'est un... J'avais le mot un matin, là, c'est comme un pollen, pas la flore, il y a un mot, une particule de semence, quand une fleur, la semence, elle vole dans l'air, là, puis elle rentre dans l'autre semence, mais c'est pas le pollen, mais il y a quelque chose qui sort de Dieu, qui fait que ça a rentré dans notre vie, c'est ça qui a permis qu'on devienne autre chose. J'avais le mot, je l'ai oublié, je reviendrai là-dessus avec ce mot-là un jour. Mais c'est une semence sans corruption qu'il a fallu qu'il rentre en nous pour pouvoir nous changer, pour qu'on devienne sans corruption. Puis le processus est commencé à partir du moment que tu t'es repenti. Tu l'as entendu, tu l'as reçu, ça a commencé à germer en toi. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, c'est là que ça commence, la régénération. Le Saint-Esprit rentre, puis il fait de toi une nouvelle créature, puis Dieu commence à goûter que ça commence à goûter bon. Après que tu t'es converti. Sans la foi, il est impossible d'être agréable, puis sans la nouvelle naissance, c'est impossible d'être bon aux yeux de Dieu. Parce que la bonté vient pas de nous, elle vient de ce qui est de Dieu qui est entré en nous, puis qui nous a changés. Tous les mérites s'en vont à Jésus. Jésus nous a dit que ton acceptation d'être régénéré par sa semence, déterminera ton avenir éternel. Si tu l'acceptes qu'il vienne faire cette œuvre-là en toi, c'est ça qui va déterminer où tu t'en vas après. Le champ, c'est juste temporaire. Tu as été planté pour être une carotte, un exemple, mais il faut que la carotte ait sa nature de carotte pour qu'elle soit acceptée dans le chaudron. Sinon, les carottes qui sont contaminées, pourries, puis etc., ils s'en vont où? Ils s'en vont en container. Matthieu 13, 36 à 43, Jésus il explique à ses disciples dans la parabole que j'ai lue tantôt. Alors, il renvoya la foule, il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » La bonne semence, la parole vivante et permanente de Dieu, la parole qui régénère la vie des gens, elle vient de Jésus. C'est Jésus qui l'a semé, qui a commencé à la semer il y a 2000 ans, puis elle sème encore, puis tout est écrit dans le livre qu'on a aujourd'hui, puis on le reçoit aujourd'hui, puis on est de nouveau. C'est comme si la semence est éternelle, parce qu'aussi longtemps qu'il va y avoir des humains sur la terre, puis que le champ va être encore est en train d'être en culture, parce qu'on est encore dans la saison de la culture, un jour le maître va se lever, va venir chercher les plants qui sont prêts, les autres vont rester là. La moisson. Il y a une moisson qui a été donnée. Cette moisson-là, il va ramasser celles qui sont prêtes. Les autres qui sont encore dans leur nature, de mauvais arbres, vont rester là. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est la planète. Le champ, c'est l'ensemble de la création terrestre de Dieu. C'est là que les cultures poussent. C'est comme la serre, où ce qu'on est comme dans une serre, puis on est tout en train de pousser. Il dit, la bonne semence qui pousse, là, ce sont les fils du royaume, la celle qui est bonne, le blé. C'est les fils du royaume, c'est les gens sauvés. Ceux que Jésus a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu peux pas voir le royaume, puis tu peux pas y entrer. Faut que tu naisses de nouveau. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, puis la moisson, c'est la fin du monde. Il va avoir une fin du monde un jour, puis c'est là que l'ivraie va être pris, puis va être jeté dans l'étang de feu. C'est ce que ça dit. Les moissonneurs, ce sont les anges. Au verset 40, ça dit, « Or, comme on arrache l'ivraie, puis on la jette au feu, il en restera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme viendra, il enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'espère, je vous apprends pas qu'il va y avoir une fin du monde. Ce monde-là qu'on vit présentement va disparaître complètement. Ça va être complètement différent. Une nouvelle création. Puis c'est important de le savoir. Si les gens ne le savent pas, on dirait que les gens sont installés pour vivre l'éternité ici, sur cette terre. Ils mettent tout l'accent, leur accent sur leur confort personnel, puis ils mettent pas d'accent sur leur vie spirituelle, de se préparer à rencontrer Dieu. Comme qu'il dit dans Amos, il dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » On doit se préparer. C'est une préparation. Puis on ne sait pas combien de temps qu'on va rester encore dans le champ, mais un jour, on va être cueilli. C'est important d'être devenu blé. Amen. La question qu'on doit se poser, c'est quel type de fruits voulons-nous porter en tant que chrétien? Parce que c'est un arbre qui pousse des fruits, quel genre de fruits? Parce qu'il y a des arbres qui n'en portent pas, puis il y a des arbres qui portent de mauvais fruits. Quand tu pognes un pommier, tu payes 150$ pour un petit pommier, puis il est toujours piqué par les vers, puis toutes sortes de maladies dedans, puis tu n'es jamais capable de manger une pomme. C'est pas le fun. Puis, ou s'il n'en sort pas du tout parce qu'il est stérile. Ça l'arrive, ça aussi. Dieu s'attend que chaque être humain porte du fruit pour lui. Qu'on ait du bon goût pour lui. Dans Romains 6, 21, nous dit qu'avant qu'on accepte Jésus, là, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Fait qu'avant de venir au Seigneur, on portait des fruits qui nous amenaient à la mort, parce qu'on était pécheurs, puis on n'avait que du mauvais dans notre vie. Même si t'étais un bon gars, même si tu faisais du bien, ça n'avait aucune saveur pour Dieu. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Dieu a décidé de nous sauver par la foi. C'est la foi qui est agréable à Dieu, une foi vécue par des œuvres. Amen. Amen. Les semences de la végétation ne peuvent se mélanger aux autres espèces. Hein? Quand tu essaieras de croiser une carotte avec un chou-fleur, ouais, ça va pousser. Ça, Dieu a tout fait, les semences sont différentes, puis ça se mixe pas entre eux autres. La seule petite différence que nous, qu'on a en tant qu'arbre fruitier, sauvé, parce qu'on est sauvé, on est changé de nature, changé d'espèce, mais on encourt une possibilité de se faire corrompre par les autres semences. Nous, en tant qu'humains, on est des arbres fruitiers qui sont en train de pousser, qui seraient supposés d'avoir du bon fruit, mais on peut être influencé ou désorienté ou aveuglé ou mélangé ou contaminé par les autres mauvais arbres qui poussent autour. Dans le psaume 1, les versets de 1 à 6, c'était le premier psaume, il y a une vérité là-dedans, bien plus qu'une vérité, plusieurs vérités qui font partie de cette idée-là qu'on est en train de regarder aujourd'hui. On veut être des arbres fruitiers pour le Seigneur. Il faut faire attention de la manière qu'on vit sur cette terre. Ce n'est pas tout ce qui est autour qui est bon pour nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, mais il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a une grande révélation écrite dans la simplicité. On voit là-dedans que l'homme est comparé à un arbre, puis il y a du fruit à porter, puis la condition pour en porter du bon fruit, c'est d'être planté près du courant d'eau. Il nous donne l'exemple, il dit, c'est pas quelqu'un qui va s'alimenter assis sur le banc d'un moqueur, puis en train de s'alimenter des corruptions, puis des méchancetés que les méchants ou les moqueurs vont vouloir nous entraîner. Tu veux porter du bon fruit, avoir du feuillage, avoir donné ton fruit dans ta saison, parce qu'il faut comprendre qu'on a des saisons aussi. Mais il dit, sois alimenté de ce qui est sain. Sois alimenté de ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu, la semence, la parole vivante et permanente, la parole incorruptible. C'est elle qui nous a régénérés. Le Saint-Esprit s'est servi de la parole de Dieu pour que la foi prenne, puis ça commence à germer, puis qu'on mette notre foi en Jésus. C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La minute qu'une personne est ouverte, qu'elle laisse rentrer des passages de la parole, c'est là que Dieu, le Saint-Esprit, fait un œuvre, puis il se sert de ça, pour y ramener, puis il fait penser. Puis là, la personne, elle va venir au salut. Mais quand tu es chrétien, quand tu marches avec le Seigneur, si tu veux arriver à maturité et avoir ton fruit dans ta saison, Il faut que tu laisses la parole de Dieu encore entrer dans ton cœur, c'est d'être planté près du courant d'eau, puis de boire de cette eau-là, puis de la méditer. Il dit de la méditer jour et nuit. Demeurez dans la parole, pensez à la parole, parlez de la parole. C'est de l'eau vive, c'est de l'eau qui va faire le fruit en toi. Autant que cette eau-là qui vient de Dieu a permis que tu sois sauvé, autant que cette eau-là va faire que tu sois alimenté de la sève qu'il te faut pour pouvoir arriver au fruit de Dieu. Puis ça vient pas de toi, ça vient de Dieu.
Amen.
Ton feuillage sera pas flétri. La plante qu'il y a là, il y a des fois qu'elle est devenue flétrie, surtout quand elle a manqué d'eau. Là, les feuilles viennent toutes molles, toutes fripées. Tu remets de l'eau dedans, elle revient bien belle. Les feuilles sont toutes bien épanouies. Puis on est pareil. Négligeons de lire la Bible, négligeons de se nourrir spirituellement, d'être abreuvé du fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu, puis on sèche la même affaire. Il dit, les méchants, c'est ceux qui veulent pas de l'eau du Seigneur, ils sont comme de la paille. La paille, il n'y a rien à faire avec ça. Quand ils ramassent la paille, ils commencent par couper le blé. Ils font la première trême, ils font des belles avec ça, puis ils nourrissent les vaches. Avec la paille, elle est étendue à la terre, puis les vaches font caca dessus. C'est rien que ça que ça sert de la paille. La paille, ça sert à rien. Puis le méchant, il est comme de la paille que le vent dissipe. Il ne restera pas dans la maison de l'Éternel. Si tu es un arbre qui se laisse sécher, tu vas devenir comme cela. Faut rester abreuvé, tes feuilles vont toujours être belles. Puis quand vient ta saison, le fruit va sortir. Toute la gloire de notre croissance et de nos fruits reviennent à Dieu. C'est grâce à Dieu, puis merci Seigneur, s'il y a le moindre fruit qui sort de ma vie, paille que j'étais, et maintenant on est du blé qui pousse, puis que ça va faire du bon pain brun pour Dieu. Amen. Dieu a donné la semence, il a donné la pluie, puis c'est lui qui fait croître. Le verset dans 1 Corinthiens 3, 6 et 7, Paul, il dit, j'ai planté, mais il a planté quoi? Il a planté de la parole vivante et permanente qui venait de Dieu. Dieu avait donné sa semence. Ça, il dit, la semence, c'est le Fils de l'homme qui l'a apporté. Ça vient de la parole de Dieu. Fait qu'on utilise la parole de Dieu et on la plante, mais le mérite, il n'est pas à nous. Le mérite est que Dieu l'a donné, cette semence permanente et vivante-là, qui va changer des vies. Dieu a donné la semence. Là, il dit qu'Apollos, il a arrosé. Mais en réalité, il a arrosé avec quoi? C'est encore avec la parole et ce que le Saint-Esprit a pu faire. Donc, c'est encore la gloire à Dieu. Dieu fournit la semence, fournit l'arrosage, puis Dieu fait croître. En sorte que c'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Si on grandit dans le Seigneur, si on porte du fruit, c'est encore toute la gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Si quelqu'un veut grandir dans le Seigneur et porter plus de fruits, il doit regarder à Dieu. C'est ça qui est le problème qui est arrivé aux vierges folles. Quand que les lampes s'éteignaient, ils ont été voir les autres, puis ils ont dit, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Quand tu te fies ces autres pour avancer spirituellement, tu vas finir par en manquer. Va à Dieu, reste connecté à Dieu, prie Dieu chaque jour, lis la parole de Dieu une portion chaque jour. On mange bien trois fois par jour. Pourquoi qu'on ne mangera pas de la nourriture spirituelle? Prenons du temps pour lire, un temps pour prier. Je dis trois fois par jour qu'on mange. Il y en a qui c'est quatre fois, puis des fois, c'est pas cinq fois. Puis on mange en plus entre les repas. Mais spirituellement, il faut s'entretenir.
Amen.
2 Corinthiens 9:10 nous dit, « Celui qui fournit la semence au semeur, ça c'est Dieu, et du pain pour sa nourriture, c'est encore Dieu, vous fournira, vous multipliera la semence, puis il augmentera les fruits de votre justice. » Tu veux grandir, tu vas en avoir plus de fruits, mais c'est Dieu qui va augmenter tes fruits de justice. Regarde à Dieu. Connecte-toi sur Dieu. Reste connecté, c'est là qu'advient la sève. C'est pas assis sur les bancs des autres. C'est assis avec Dieu sur son banc à lui. Dieu nous a admis, on a vu ça la semaine passée, Dieu nous a admis dans son cercle d'amis. Puis il y avait des critères pour qu'on le devienne. Puis on avait, il dit, c'était ceux qui avaient la crainte de Dieu qui pouvaient faire partie dans son cercle d'amis. Il nous a admis dans son cercle d'amis, puis le résultat de notre vie sera ce qu'il y a de mieux pour nous. Si on y croit, si on le prend, puis si on le laisse faire, si on en veut plus, il va le faire. Parce que Dieu est fidèle. Il l'a promis. Il va le faire. Mais ça prend des gens qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il dise « viens », qu'il boive. Il y a 2-3 versets qu'il mentionne dans ce sens-là. Dans Proverbes 8-17, Dieu nous dit « j'aime ceux qui m'aiment, puis ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables, ça c'est les biens éternels, et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Tout ce que Dieu a à donner, c'est mieux que toutes les richesses de ce monde. Faut le réaliser. Quand une personne est rendue dans sa vie qui apporte du fruit pour Dieu, Dieu y est content, puis Dieu il mange lui-ci en retour ce qu'on lui donne comme fruit. Quand on porte de bons fruits, c'est des fruits pour Dieu. Il y a les humains aussi qui en profitent, parce que quand t'es un bon gars, rempli du Saint-Esprit, tu communiques, les autres sont bénis. Mais ça va être la même chose aussi pour tout le monde qui sont chrétiens. Tu vas communiquer les bénédictions de Dieu. C'est comme si Dieu permette qu'il mange à sa table de ses fruits succulents que Dieu a mis en place en chacun de nous. Nous avons que des avantages d'être plantés dans la maison de l'Éternel. On le sait, mais c'est bon de se le rappeler. Si on est béni, c'est parce qu'on est en Jésus. On était greffé au cèpe. Ce cèpe-là, c'est Israël. Les branches incrédules ont été enlevées, puis nous, qu'on était de l'olivier sauvage, on était greffés sur l'olivier franc. On est alimenté de la sève qui vient de Dieu, puis Dieu veut faire produire en nous plein de bons fruits à la gloire de Dieu. Dans le psaume 92, les versets 12 à 14, ça dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Les cheveux sont peut-être rendus blancs, mais ils portent encore du fruit dans leur vieillesse. Puis ils sont pleins de sève et verdoyants aux yeux de Dieu. Les humains, ils regardent des chrétiens, ils vont s'en moquer. Mais Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux, son super de beau jardin. Puis les justes, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont été plantés là. Puis ils poussent, puis Dieu il est fier de son jardin. Tous ceux qui n'ont déjà fait des jardins comprennent cette idée-là. T'es-tu fier quand que ça pousse? Puis là, ta carotte qui est rendue grosse de même, là, wow, t'es fier de ta carotte, qui est donc bien belle ta carotte, t'as montré à tout le monde tellement que t'es fier. Dieu, il fait la même chose avec nous. Quand qu'on pousse puis qu'on porte du fruit, il est fier de ses récoltes. Ça le bénit. Êtes-vous fier de faire partie de son chaudron? Le but de la vie chrétienne doit être de marcher en portant beaucoup de fruits pour Dieu. Puis pour ça, il faut rester connecté au Seigneur. Dans Colossiens 1:10, ça nous dit de marcher d'une manière digne du Seigneur, puis de lui être entièrement agréable à Dieu, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est-tu beau ces versets-là? On est là, frères et sœurs, dans la suite de notre vie, alimentés près du courant d'eau, dans le but qu'on soit porteur de fruits, puis Dieu va être fier de venir nous cueillir, puis de nous emmener dans son chaudron. Nous avons été sauvés pour porter des fruits pour Dieu. On n'a pas été sauvés pour rester dans la poche. Parce que nous autres, on achète des poches de patates en automne, on les met dans la chambre froide. S'ils dépassent le temps qu'ils sont supposés d'être, puis ils restent dans la poche, ils finissent par germer. Après ça, ils finissent par ratatiner. Après ça, la moisissure pogne dedans. Puis là, ils deviennent tout ratatinés, puis plus rien à faire. Là. Pense pas à les remanger une fois qu'ils sont rendus déshydratés. Ils sont quasiment en poudre. Quand ça fait 5 ans qu'ils sont là, va pas voir que ça a de l'air, tu les reconnaîtras pas. Mais je pense que si on reste dans la poche, on va finir comme ça. Puis ça, là, les poches, c'est comme tout ce qui peut nous envelopper dans notre vie chrétienne. Si on veut avoir de l'air des carottes fraîches, dignes d'être mises dans un comptoir de métro, mais il faut qu'elles soient belles. Les tout croches, ils ne sont pas exposés. Mais Dieu, c'est un peu la même affaire. Il ne veut pas qu'on soit des carottes tout croches. Il veut qu'on soit des carottes, des belles carottes qui ont de l'air appétissante. Les belles, ils finissent dans le container. Les pas belles, je veux dire, ils finissent dans le container. Dans Romains 7:4, ça nous dit, « Frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. » Ça, c'est Jésus. « Afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Notre but de notre vie, c'est qu'on doit porter des fruits pour Dieu. On était sauvés, puis on appartient à Jésus pour porter être un fruit pour Dieu. Il faut développer cette idée-là pour comprendre quel est mon rôle. Quels sont les différents fruits qu'un chrétien doit vivre? Il en parle-tu? Oui, il en parle. Là, j'ai pas sorti tous les versets, il y en aura trop. Mais comme le fruit de l'Ève qui loue son nom, les fruits de l'Esprit, le fruit de la justice, d'être quelqu'un qui marche droit, Dieu trouve ça agréable, d'être un juste, quelqu'un qui marche fidèlement selon sa parole, Dieu aime ça. Le fruit, on a comme fruit la sainteté, de devenir saint. Dieu, quand il voit les gens qui sanctifient, puis les gens fuient le péché, puis mettent leur vie en règle conformément à la parole, ils réalisent des choses, puis ils l'appliquent, ça fait plaisir à Dieu. Des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quand tu es un chrétien puis tu fais les choses pour servir le Seigneur, tu es en train de porter du fruit pour Dieu. Puis les fruits aussi qu'on peut récolter dans l'évangélisation, on peut porter du fruit en sauvant des âmes. Il y a toutes sortes de méthodes, toutes sortes de moyens, toutes sortes de manières que Dieu aime. Mais l'important, c'est de porter le fruit que Dieu s'attend. Dernier verset. Soyons sur nos gardes, ne perdons pas le fruit de notre travail. Parce que le fruit est pour Dieu, mais ça peut arriver qu'on manque le but. Dans 2 Jean 1:8, ça nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne vous perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Un jour, Dieu va récompenser ceux qui ont porté leurs fruits en leur saison. Dieu va les prendre, puis il va être fier. On va rentrer dans la joie du maître. Mais il y en a, ça dit aussi dans le passage qu'on a vu, « Et le Fils de l'homme enlèvera de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Marchons avec le Seigneur, laissons-nous pas voler, portons du fruit pour Dieu, persévérons, puis continuons à accomplir ce que Dieu s'attend chacun de nous. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les versets qui nous enseignent, qui nous exhortent, qui nous ouvre les yeux pour comprendre qu'on nous sommes des arbres fruitiers et qu'on doit porter de bons fruits pour toi. On veut pas être considéré parmi les faux prophètes qui ont des mauvais fruits. On veut être des vrais prophètes de Dieu, marchant fidèlement comme tu nous l'as demandé. Donne-nous de rester alimentés de ton eau chaque jour, de s'alimenter de ta parole, puis de grandir, puis de porter du fruit. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu feras dans la suite. Nous remettons nos ventres tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.